France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Il y a des très gros écarts de niveau dans les classes, avec des enfants qui peuvent avoir des difficultés purement scolaires, mais d'autres qui ont des vies évidemment compliquées. Avec les effectifs qu'on a, c'est compliqué de répondre aux besoins de chacun.
Quand on a 11 ou 13 élèves, l'enfant est forcément plus proche de nous et a plus de place pour s'exprimer. Et nous, on a aussi plus de temps pour l'observer et donc être au plus près de ses difficultés s'il en a.
Monsieur Blanquer, en fait, ces élèves-là, c'est le cadet de ses soucis aujourd'hui. Quand j'entends parler de l'excellence, ça va être les futurs excellents qui vont devoir sortir. Par contre, ceux qui n'ont pas réussi à suivre, eh bien eux, pour eux, ils n'ont plus rien. Ils sortent du système avec que dalle.
Nathalie Elimas poursuit son tour de France des REP avec aujourd'hui la visite d'une école et de deux collèges en Isère. Partant du constat que la politique d'éducation prioritaire menée depuis 40 ans n'a pas atteint ses objectifs, la secrétaire d'État nommée cet été veut repenser les moyens attribués aux établissements en difficulté. Créés en 1981, les réseaux d'éducation prioritaire englobent un élève sur cinq et plus de 7500 écoles primaires et collèges répartis partout en France. Dans ces établissements réputés plus difficiles, les élèves, issus majoritairement des milieux populaires, accumulent souvent des difficultés scolaires. Pour les accompagner, des moyens supplémentaires sont attribués à ces établissements. Les classes de CP et de CE1 ont été dédoublées, il y a davantage de surveillants, de conseillers principaux d'éducation et des moyens financiers supplémentaires pour financer des projets pédagogiques, des sorties culturelles ou des voyages scolaires. Actuellement, près de 2 milliards d'euros sont dédiés à l'éducation prioritaire chaque année. Mais des établissements en grande difficulté sont restés au bord de la route. Depuis 2015, un REP est composé d'un collège de secteur et des écoles primaires qui s'y rattachent. Si le collège n'est pas classé REP, l'école ne le sera pas non plus, d'où l'expression « d'école orpheline ». Nathalie Elimas veut introduire plus d'équité, plus de souplesse, plus de progressivité dans l'attribution des moyens. Et elle veut lancer une expérimentation dans 3 académies à la rentrée prochaine en vue d'une grande réforme de l'éducation prioritaire. Les orphelins de l'éducation prioritaire, c'est un reportage signé Thomas Giraudot. Dans Grand Reportage, nous accueillons aujourd'hui Jean-Yves Rochex. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite au département des sciences de l'éducation à l'Université Paris 8 Saint-Denis. Et depuis plus de 30 ans maintenant, vous menez des recherches sur l'éducation prioritaire. Alors vous allez écouter avec nous le reportage de Thomas Giraudot. Bonjour Thomas.
Bonjour Aurélie.
Une précision pour bien comprendre ce que sont les réseaux d'éducation prioritaire. Quels sont les critères pour devenir établissement REP ?
Eh bien, l'appartenance d'une école et d'un collège à un REP est basée sur 3 critères communs. Le taux d'élèves boursiers, le type de quartier dans lequel ils vivent, les catégories socio-professionnelles des parents et pour le collège, le nombre d'élèves ayant redoublé au moins une classe avant leur entrée en 6e. En clair, plus les élèves sont boursiers, fils ou filles d'ouvriers, d'employés, d'inactifs et vivant dans des quartiers défavorisés, placés sous politique de la ville, plus il est probable que l'école ou le collège soit classé en réseau d'éducation prioritaire. A noter qu'il y a les établissements classés REP, mais aussi des REP+, 2500 écoles primaires, plus de 350 collèges où les difficultés scolaires, économiques, sociales sont encore plus importantes. Eux disposent de davantage de moyens.
Pour comprendre la problématique des écoles orphelines exclues de l'éducation prioritaire, nous partons à Antony, dans les Hauts-de-Seine, une ville plutôt aisée, mais avec des quartiers populaires et défavorisés. C'est là que se trouve l'école élémentaire Anatole France, où vous a emmené, Thomas, un très bon connaisseur du quartier.
Non, non, là tu vas en biais, tu vas prendre le centre commercial, et le quartier prioritaire d'Antony commence ici. Voilà, dès qu'on passe la voie de chemin de fer, là. Et ça, c'est tout ça, ça va à Anatole France. Voilà, toutes les grandes barres, là.
Alors, moi, je suis Hugo Di Palma. Je suis l'élu en charge des écoles dites en éducation prioritaire, ainsi que des dispositifs de réussite éducative pour la ville d'Antony.
On a l'impression d'être plutôt dans un quartier populaire, un petit peu défavorisé de la ville d'Antony.
Alors, effectivement, c'est le quartier dit le plus défavorisé de la ville d'Antony. C'est une réalité. Sur ce quartier qu'on appelle le quartier du Noyer Doré, il y a 2 groupes scolaires, le groupe scolaire du Noyer Doré et le groupe scolaire Anatole France, dont j'étais directeur jusqu'à fin août dernier, pendant plus de 25 ans, d'où le fait que je connaisse bien les quartiers. Maintenant, effectivement, 70% des familles sont du quartier vivent sous le seuil de pauvreté. 95% des logements qui sont sur le secteur de l'école Anatole France sont des logements sociaux. Ça vous situe l'architecture, on va dire, des bâtiments qui entourent et qui encerclent complètement l'école Anatole France.
Donc on a une école qui est en plein cœur d'un quartier défavorisé, mais qui, pourtant, n'est plus classée en éducation prioritaire depuis 2015. Pourquoi ?
Simplement parce que le collège, qui théoriquement est ce qu'on appelle la tête de pont de l'éducation prioritaire, en est sorti à juste titre, mais sur le groupe scolaire Anatole France, il n'aurait jamais dû en sortir, parce que si le secteur du collège a évolué, celui d'Anatole France n'a pas changé. Les 95% des familles logées dans des logements sociaux sont toujours là. Bonjour mesdames. Les 70% des familles sous le seuil de pauvreté sont toujours là et les difficultés sont toujours les mêmes. C'était juste pour vous situer. Ici c'est Anthony, ça c'est Massy. C'est-à-dire que si tu vas te promener par là, là il y a un collège juste derrière, hein, Albert Camus, juste derrière. Là. Il y a une école, pareil, il y a deux écoles qui sont à proximité, mais voilà. Eux sont en éducation prioritaire. C'est quand même incompréhensible la façon dont sont réfléchies les choses, enfin réfléchies j'en sais rien, mais enfin, pensées à minima au niveau du ministère. Voilà.
Eux sont en éducation prioritaire, on est de l'autre côté de la route, littéralement, avec le même profil d'immeuble, le même type de population, et pourtant, vous n'avez pas droit au label.
C'est ça. Voilà, c'est exactement ça.
Depuis 5 ans, les enseignants d'Anatole France luttent pour réintégrer un réseau d'éducation prioritaire, retrouver les moyens et dispositifs spécifiques. Exemple des dédoublements en CP et CE1, pas plus de 12 à 13 élèves par classe. À l'école Anatole France, Cécile Hivernet n'en bénéficie donc pas. Elle enseigne cette année à 22 CE1.
Alors, on fait comme on peut. Après, on n'est pas des magiciens, hein, très clairement. On a une énorme différenciation à apporter parce qu'il y a des très gros écarts de niveau dans les classes. Avec des enfants qui peuvent avoir des difficultés purement scolaires, mais d'autres qui viennent, ils viennent avec leur vécu, avec leur vie, et il y en a qui ont des vies évidemment compliquées et qui sont empêchés d'apprendre pour tout un tas de raisons différentes. On s'adapte du mieux qu'on peut, mais non, effectivement, avec les effectifs qu'on a, c'est compliqué de répondre aux besoins de chacun, très clairement. C'est aussi pas évident parce qu'il y a énormément d'enfants dont la langue maternelle n'est pas forcément le français, donc il y a aussi beaucoup de carences au niveau du vocabulaire et au niveau de tout un tas de choses qu'il faut reprendre et répéter vraiment énormément de fois. Donc oui, il y a au niveau de la lecture, ça pose évidemment des soucis et ça ralentit un petit peu, ou en tout cas ça demande plus de temps pour qu'ils puissent apprendre comme les autres. C'est sûr que là, il y en a un tel nombre qui a besoin d'accompagnement, voire d'accompagnement individuel, que on ne peut pas le faire pour les 22 de la même manière que pour 12 enfants, ça c'est sûr. Moi je me sens très clairement frustrée et impuissante face à certaines situations, et je me sens aussi assez délaissée par notre hiérarchie, qui ignore les difficultés qu'on peut avoir. En tout cas, on n'a pas de réponse, on n'a pas d'écoute. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, et encore plus dans une période comme celle qu'on est en train de vivre avec la Covid qui vient en plus. C'est des choses, oui, où on se sent seul, très clairement seul.
Le confinement, justement, et son impact sur la scolarité. Dans sa classe de CE1, Sophie Varon a vu décrocher une partie des enfants cette année.
Je pense que ça s'est dégradé. Il ne me semble pas que je faisais autant de grands écarts quand même. Il y a toujours eu des quelques élèves qui... Mais là je pourrais presque compter 3-4 niveaux différents dans ma classe. Entre ceux qui ne savent pas du tout lire, enfin ils en sont aux syllabes L, I, L, voilà. Et puis ceux qui sont très demandeurs, parce que j'en ai quand même, hein, des bons élèves. Et donc c'est, je donne un petit peu à chaque, et quand je rentre, je me dis qu'il y a un sentiment de frustration le soir. Mais je me dis, lui, tu aurais dû passer plus de temps, et voilà. Il faudrait que j'ai moins d'élèves par classe, quoi. Enfin, dans ma classe, quoi. Parce que travailler en atelier, parce que ces enfants-là, on ne peut pas travailler des manuels, prendre page machin, 24, exercice 2. Ils ont vraiment besoin ils ne sont pas dans l'abstraction du tout, quoi. En plus, cette année, c'est pire parce que l'année dernière, il y a le confinement et j'ai beaucoup d'élèves qui ne sont même pas entrés encore dans le code alphabétique. Donc, qui ne lisent pas du tout, quoi. Et là, c'est un peu difficile, quoi. Donc, c'est vrai qu'on avait beaucoup d'élèves d'un seul coup, un peu trop, pour que chacun ait une attention particulière. Je fais des sauts de puce, là, avec un peu plus de temps pour certains, pour les plus fragiles. Et puis les autres sont toujours frustrés. Donc, voilà. Donc, en fait, on passe son temps à culpabiliser, quoi. On fait ce qu'on peut, mais on se dit que, le soir, on fait le bilan et on se dit, ça m'arrive de partir le matin en me disant, bon, c'est aujourd'hui, je vais faire. Et puis le soir, je reviens, je suis frustrée, quoi.
Anatole France, bonjour.
Dans son bureau, oui, la directrice de l'école enchaîne les coups de téléphone. 18 classes à gérer pour Aline Becker, syndiquée au SNUIPP-FSU. Depuis sa sortie des REP, l'école bénéficie tout de même de quelques moyens supplémentaires apportés par le département et par la mairie d'Antony au titre des politiques de la ville pour les quartiers défavorisés. C'est dans ce cadre que fonctionne une cellule de veille.
Ce que je peux vous montrer, c'est les trois heures de réunion que j'ai passées ce matin en cellule de veille, où on étudie des situations d'élèves qui sont à la fois en fragilité scolaire, mais qui rencontrent aussi des difficultés économiques, sociales, familiales. Et on est un ensemble de partenaires à se réunir. Voilà, donc ça par exemple, alors ça c'est tous mes dossiers de signalement pour les cellules de veille. Donc, vous voyez que le nombre d'élèves qui sont signalés. Voilà, ça c'est toutes les situations. Donc on en est à plus d'une quarantaine, vous voyez, de situations d'élèves.
Là, pour combien d'élèves au total ?
En tout, on a 450 élèves dans l'école. Donc là, c'est vraiment les situations extrêmement compliquées, situations familiales très compliquées, des élèves qui sont parfois à la limite du décrochage scolaire. Certains élèves bénéficient de mesures éducatives par l'aide sociale à l'enfance. On a pas mal d'élèves qui sont suivis par l'ASE, qui ont des mesures judiciaires, même pour certains. Voilà. Et puis, on a aussi des familles qui sont en fragilité psychologique, parce que les parents eux-mêmes sont dans une forme d'instabilité psychologique. Là, ça demande un accompagnement social très très important. Depuis que je suis là, j'ai fait au moins déjà 5 à 6 informations préoccupantes à l'aide sociale à l'enfance. J'ai quand même régulièrement des commissions rogatoires du juge des enfants qui viennent, donc avec des officiers de police judiciaire qui viennent auditionner des enfants dans l'école. Donc avec de la violence intrafamiliale, des situations d'instabilité affective, sociale, enfin tout est lié en fait, toutes ces problématiques-là sont liées. Donc c'est tout ça à prendre en compte aussi. Donc dans la tête d'un enfant qui vient à l'école, il faut qu'on sache qu'il y a tout ça aussi. Ils arrivent avec ce bagage-là à l'école et ils ne le laissent pas derrière la grille. Ils rentrent dans l'école avec, donc avec des situations souvent explosives. On a des enfants qui sont très impulsifs, émotionnellement très fragiles et qui peuvent parfois complètement déborder de façon totalement imprévisible dans les classes.
Aujourd'hui, quels sont les moyens humains que vous avez à disposition pour justement essayer de gérer ces problèmes extrascolaires ?
Au niveau de la ville d'Antony, dans le cadre de la politique de la ville et donc de la réussite éducative, on a heureusement un certain nombre de ressources. Donc on a 2 psychologues de la réussite éducative. On a aussi un RASED alors, qui est au complet, un réseau d'aide spécialisée avec des enseignants spécialisés rééducatifs, aide pédagogique et psychologue scolaire qui est présent dans l'école, mais sur un temps restreint, puisque en fait le RASED intervient sur 3-4 écoles. Donc l'aide que peuvent apporter ces enseignants spécialisés reste extrêmement ponctuelle et très insuffisante par rapport aux moyens. Et puis ce qui nous manque aussi, c'est ce qu'on appelle la dynamique de réseau, c'est-à-dire le travail, la formation qu'on peut avoir avec et le collège, et les temps de concertation qu'on devrait pouvoir avoir entre nous, pour faire les passerelles maternelles, élémentaires. Tout ce temps-là, qui normalement est consacré à l'éducation prioritaire, nous ne l'avons pas. Donc ce travail d'échange, de travail d'équipe, on le fait, parce que c'est indispensable pour notre école, on n'y arrive pas sinon. Mais par contre, on le fait sur notre temps personnel. Donc on a des collègues qui sucent, qui se fatiguent, on a de l'épuisement professionnel. Mais on le fait parce que aussi, l'équipe ici, elle est particulièrement soudée, particulièrement investie, mais ça ne peut ne pas durer, cette situation-là.
La mairie, les parents d'élèves ont envoyé des dizaines de courriers au rectorat et au ministère de l'Éducation pour que l'école réintègre un réseau d'éducation prioritaire. Sans succès, la carte nationale des REP n'a pas bougé depuis 2015. Elle devait pourtant être revue en cette rentrée de septembre.
L'intercité numéro 5971 à destination de Clermont-Ferrand va partir.
Un certain nombre d'écoles primaires sont orphelines de l'éducation prioritaire. On compte aussi des collèges oubliés. C'est le cas du collège Gérard Philippe à Clermont-Ferrand. Plusieurs de ses voisins sont classés en REP, pas lui, alors qu'il connaît des difficultés très similaires. Nous nous rendons chez Frédéric Canguilhem, professeur de mathématiques depuis 2011 à Gérard Philippe et représentant CGT Éducaction. À ses côtés, Sandrine Charrier, professeure d'éducation musicale dans ce collège depuis 15 ans et élue au SNES-FSU, en représentant de parents d'élèves, se joint à eux.
Alors aujourd'hui, nous avons au collège plus de 74% de CSP défavorisés. Nous avons aussi un taux de boursiers qui est de 60,8%. on voit bien que nous sommes complètement au-dessus de la moyenne nationale des REP pour ces deux taux-là. Nous avons une population qui mériterait qu'on mette d'autres moyens sur le collège pour pouvoir bien enseigner et pour que les élèves puissent bien travailler. C'est un collège effectivement difficile, avec une population qui n'est pas entièrement difficile, mais avec beaucoup d'élèves qui sont en grosse difficulté sociale et en grande difficulté scolaire, que l'on aide comme on peut en faisant plein de choses pour les aider à progresser et pour que ce collège puisse être un collège où on aime enseigner, où les élèves puissent être accueillis et aiment venir, et avec des enseignants qui seraient heureux d'y venir travailler, puisque beaucoup d'entre eux ont muté l'année dernière, beaucoup d'entre eux ont obtenu leur mutation. Pour vous dire, cette année, on a renouvelé toute l'équipe de lettres et toute l'équipe d'histoire-géographie. Et quand un établissement va bien, en principe, les collègues s'y sentent bien. Et ils n'en partent pas, ou ils en partent pour se rapprocher de chez eux, mais pas pour éviter l'établissement.
Là, ceux qui souffrent le plus, c'est les jeunes collègues qui viennent d'arriver, qui sont soumis à des conditions de travail qui sont très très difficiles, parce que ça va très vite en fait. Et souvent, un enseignant qui souffre, c'est un enseignant qui se tait. Quand dans leur classe, les élèves, ça se passe mal, la plupart du temps, on ne le sait pas. Et puis après, quand on le sait, ça explose. La semaine dernière, je crois qu'on était à quasiment 7 arrêts maladie.
Alors qu'il y a des problématiques de discipline, de violence dans le collège ?
En une journée, la journée de hier, j'ai séparé une bagarre dans la cour. Et des choses assez violentes, on est confronté. L'autre jour, mardi, un élève qui est arrivé, qui on a enlevé un couteau d'un sac. Voilà, c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Ces moments-là, il manque du monde, clairement. Parce que quand ça arrive, il faut être partout à la fois. Il faut à la fois que vous gériez l'urgence du gamin qui pète le plomb. Donc du coup, là, comment elle fait ? Elle envoie des gamins pour dire aller chercher la hiérarchie, puis elle trouve personne parce que forcément, la direction est occupée. Les AED, donc les surveillants, ils sont aux quatre coins de l'établissement, à droite, à gauche, pour chercher ce qui se passe. Et donc là, on est vraiment complètement désemparés. Et il manque du monde, effectivement, là. Au niveau CPE, on a un CPE et demi, aujourd'hui. Et ça, on s'est battu, parce qu'au départ, on avait un CPE. Si on était en REP+, on aurait deux postes de CPE. Et c'est vrai que ça a changé la donne.
Alors pourquoi ce collège n'est pas classé en réseau d'éducation prioritaire ?
Là, je crois qu'il faudrait demander à monsieur le recteur. Mais en tout cas, en 2014, notre collège avait toutes les caractéristiques pour passer en REP. Et en fait, ça a été un choix de madame la rectrice de l'époque de ne pas le faire, parce que sur Clermont-Nord, elle ne souhaitait pas qu'il y ait trois établissements en éducation prioritaire. Elle pariait à ce moment-là sur un renforcement de la mixité sociale pour notre établissement. Et on a eu quelques moyens pour pouvoir mettre en place un certain nombre d'options. Donc effectivement, nous avons une option cinéma, une option théâtre. C'était un pari qui avait été fait, que ces options qu'on peut considérer comme attractives allaient permettre à des familles plutôt favorisées ou CSP plutôt moyens de venir ou de rester au collège. Mais c'est quand même très à la marge. Et on voit bien que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose.
Je peux juste réagir au témoignage qu'on vient d'avoir là. Je Lilian Nobilet, je suis élu représentant de parents d'élèves sur une liste FCPE au collège Gérard Philippe. J'ai envie de témoigner d'une contre-réalité du collège Gérard Philippe sur le rejet qu'un certain nombre de familles fait de l'établissement aujourd'hui, y compris au sein des parents d'élèves qui étaient élus l'année dernière. Il y en a qui ont jeté l'éponge et qui ont dit « Nous, nos enfants, on ne les met plus dans ce collège. » Donc, y compris de la part de parents plutôt militants, plutôt attachés à l'école républicaine, plutôt attachés aux enjeux de mixité dont on vient de discuter. Aujourd'hui, la situation du collège, c'est que même ces parents-là disent « Basta, ça suffit, mon enfant, il est pas bien à cet endroit, il faut que je le mette ailleurs. » Le pari qui a été fait par la rectrice en 2014-2015, fondamentalement, les parents d'élèves, on pourrait tout à fait y souscrire, même j'ai envie de dire on y souscrit, malheureusement c'est un pari perdu. Cet attachement qu'on a aujourd'hui au classement REP+, c'est plus le constat d'un échec de l'institution face aux ambitions qu'on puisse afficher en 2014-2015 qu'un véritable attachement au REP+, parce que je pense qu'effectivement la dimension REP+, son risque, au-delà des conditions d'enseignement, d'éducation qui vont être bien plus profitables et pour les enseignants, mais surtout pour les enfants, c'est clair qu'il va y avoir un effet fuite des classes moyennes. Sur des établissements types comme celui-ci, que l'institution nationale nous lâche, parce que c'est bien ça qui est en train de se jouer, qu'elle nous lâche et qu'on se dise que la seule manière de nous accrocher aux branches, c'est de réclamer un classement REP+, c'est dommage.
Frédéric Canguilhem précise que comme le collège n'est pas classé REP, il ne dispose pas d'enveloppe spécifique pour financer ses options cinéma et théâtre. Il doit donc le faire sur ses fonds propres, au détriment par exemple d'heures de soutien supplémentaires pour les élèves.
Et on pourrait arriver à faire mieux avec plus. Voilà. Mais par contre, il faudrait qu'on les sorte des groupes classes tels qu'ils sont aujourd'hui, avec 25 élèves, que ces élèves-là, on les prenne à part, et qu'on travaille avec eux sur des projets particuliers, etc. Dès que je dis ça, ben voilà, ça y est, hop, vous mettez des moyens derrière. Parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Moi, comme je vois les choses, c'est que M. Blanquer, en fait, ces élèves-là, c'est le cadet de ses soucis aujourd'hui. Quand j'entends parler de l'excellence, ça va être les futurs excellents qui vont devoir sortir. En fait, mais ça, ce n'est pas le problème aujourd'hui. Nous, dans le BAHU, les futurs excellents qui vont sortir, il n'y a pas de problème. On arrive à les mener au bout. On arrive à leur faire avoir les diplômes. On arrive à leur faire avoir le niveau. Ils arrivent à suivre. Moi, j'ai des élèves qui ont fini en classe prépa. J'ai des élèves qui finissent ça. Il n'y a pas de problème. Par contre, ceux qui n'ont pas réussi à suivre, eh bien, eux, pour eux, ils n'ont plus rien. Ils sortent du système avec que dalle. Nous, quand je dis nous, l'éducation nationale, on aurait pu agir. On aurait pu leur donner les diplômes. On aurait pu leur donner la culture nécessaire pour pouvoir justement réussir dans la vie et faire autre chose. Eh bien, non, on ne l'aura pas fait. C'est ça qui me fait le plus de peine. C'est quand je pense à ces gamins-là.
Alors comment les collégiens vivent leur scolarité? Ressentent-ils ce climat tendu, ce manque de moyens? Nous posons la question à Célia Loiseau et Nirmine Gotcha. Toutes les deux sont en terminale aujourd'hui. Elles ont passé leurs années collège à Gérard Philippe.
Déjà, il n'y avait pas assez de surveillants. On voyait bien que par exemple dans les couloirs ou même à la vie scolaire, c'était...
Même en perme.
Oui, en permanence surtout. On était quand même trois classes et on pouvait se retrouver tous ensemble en permanence. Et des fois, s'il y avait... Il manquait du personnel rien qu'avec des grèves. Il n'y avait qu'un surveillant pour 60 élèves. Quoi. On était même debout en permanence.
Et je me rappelle même que M. Delomeau, donc le directeur à l'époque, était venu, tu te souviens, faire le surveillant parce qu'il n'y avait pas assez de personnel ce jour-là.
Voilà. Ben, en soi, les classes, on était...
Surchargées.
Oui, surchargées, mais dans le sens qu'il y en avait quand même qui avaient plus de difficultés ou autres. Enfin, on voyait bien qu'on avait besoin de plus d'aide ou moins de monde dans une classe.
C'était pas une ambiance vraiment favorable à travailler. Je me rappelle, dans certains cours, c'était compliqué, quoi.
Puis dans le sens que les profs, ils pouvaient pas aider tout le monde, en fait. Donc c'était compliqué, ouais, à suivre, ou même pour l'organisation. Une fois qu'il y en avait un qui commençait à mettre le bazar, tout le monde suivait, en fait.
Donc, puis il y avait vraiment des écarts aussi entre certains élèves.
Hein. Je pense qu'il y en avait qui avaient besoin de plus d'aide, et qui ont été délaissés, quoi, donc...
Et ces élèves dont la langue maternelle n'était pas le français ou qui avaient de très grosses difficultés avant d'entrer en 6e et qui étaient intégrés à vos classes, comment ils s'en sortaient au fil de l'année?
C'était compliqué. Déjà, il y avait plein de petites fautes de français, moi je me rappelle, d'une élève.
Et puis, ils n'arrivaient pas à suivre, en fait. Parce qu'on était déjà trop nombreux, donc c'était déjà quand même compliqué pour nous. Donc pour eux, c'était...
Nous, on avait l'impression, en fait, de perdre un peu du temps. Et eux, d'aller trop vite. Du coup, il n'y avait pas juste le milieu.
Merci beaucoup.
Le string n'est pas mis à l'école, ça les rend marteau. Chance de s'en sortir si j'en ai marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le string n'est pas mis à l'école, ça les rend marteau. Chance de s'en sortir si j'en ai marteau.
Alors qu'apporte concrètement un classement en REP et REP+ pour les écoles et collèges? Nous nous rendons dans le nord de la France. L'Académie de Lille est celle qui compte le plus d'établissements classés en éducation prioritaire, après celle de Créteil. Nous sommes au collège Marie Curie de Tourcoing, une grande ville de la métropole lilloise, particulièrement touchée par le chômage et la pauvreté, et retrouvons à l'heure de la récré Philippe Laurier, le principal.
Je peux vous montrer des petites choses qui me paraissent importantes. Par exemple ici, on a des pôles espoirs ici. De haut niveau, on a aussi des classes musicales, donc des classes à horaires aménagés. Et ça, c'est important parce que ça crée de la mixité sociale et on se rend compte qu'il y a des élèves qui, par exemple, n'ont pas eu cette chance culturellement d'être initiés à la musique et ça suscite un intérêt et ils se raccrochent à ces classes-là dans leur parcours à un moment donné. Voilà. Et alors bon, là, c'est tout simplement un local qui leur permet de ranger leurs affaires en toute sécurité, mais tout simplement pour vous dire que ces organisations qu'on peut avoir dans un établissement scolaire à éducation prioritaire sont extrêmement importantes pour pouvoir donner l'envie, encore une fois, à des élèves qui n'ont pas cette chance initialement d'être accrochés culturellement à des projets comme ceux-là. Voilà.
Grâce au classement du collège en REP, les problèmes de discipline sont gérés par deux conseillers principaux d'éducation, les CPE, et par davantage de surveillants qu'au collège de Clermont-Ferrand. Ils sont aussi appuyés par une assistante sociale et l'établissement a un budget plus élevé.
Je pense que les moyens que l'on a en éducation prioritaire permettent véritablement d'impulser, je dirais, des projets d'ordre pédagogique. Bon, déjà, on peut diminuer le nombre d'élèves par classe. Lorsqu'on doit tout simplement accompagner les élèves dans l'hétérogénéité qu'on peut retrouver dans une classe, bon, effectivement, un enseignant vous dira toujours que c'est beaucoup plus facile quand ils sont une vingtaine par classe que quand les classes sont tout simplement à 7 ou 8 de plus, mais ça commence à complexifier un petit peu la tâche professionnelle. Mais ça serait réducteur de dire qu'on utilise les moyens uniquement pour aménager et rendre confortable l'action pédagogique des enseignants. Non, ça permet aussi d'impulser d'autres projets en parallèle qui nécessitent automatiquement des heures supplémentaires. Je vais vous prendre par exemple le dispositif devoir fait. Aujourd'hui, à la rentrée, donc on a 100% de nos élèves qui sont inscrits dans ce dispositif. Alors, ça nécessite vraiment, et c'est un gros dispositif, des moyens supplémentaires que seule l'éducation prioritaire nous permet de le faire. Dans un collège sans ces moyens-là, ça serait beaucoup plus compliqué de le mettre en place. Voilà.
En quoi consiste ce dispositif devoir fait ?
Initialement, c'était d'accompagner les élèves dans les devoirs à réaliser. Mais bon, on a décidé, nous, en sixième, d'accentuer la lecture et la compréhension de la langue française au niveau des sixièmes à travers les devoirs. Voilà. Sur le niveau cinquième, c'est d'améliorer la compréhension des consignes, parce qu'on sent qu'effectivement, il y a souvent une problématique chez les élèves de compréhension de consignes, ce qui fait qu'ils ont du mal à restituer, mais ils savent pas répondre à la question. Et on voit véritablement une plus-value dans à la fois les cours, parce que les élèves reviennent en classe avec, je dirais, des éléments et surtout des compétences qui ont été améliorées. Et on le retrouve au fur et à mesure des cycles, particulièrement sur la troisième, lorsqu'on doit se préparer au brevet, que là, on a à faire face à un examen avec tout le protocole que présente un examen. Voilà.
Ici, de plus en plus d'élèves issus de milieux défavorisés obtiennent le brevet à la fin de la troisième. Les moyens supplémentaires financent aussi des expérimentations telles que les classes coopératives. Mathilde Olivier est professeure principale d'une de ces classes.
Alors, la classe coopérative, c'est pas simplement une façon de travailler, c'est aussi une façon de créer en fait une ambiance classe en fait. Parce que en plus d'un enseignement, on favorise le travail en groupe. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs toujours organisés en îlots. Les sixièmes ont leur salle à eux pour avoir des coins particuliers et leur créer des habitudes différentes. Mais c'est aussi en fait un travail sur l'échange qu'ils peuvent avoir entre eux, notamment avec le conseil coopératif. Donc tous les 15 jours, ils se réunissent. Et le but, c'est qu'au fur et à mesure de l'année, ils apprennent à gérer eux-mêmes leurs différences, les problématiques qu'ils peuvent avoir. Et en général, l'évolution positive de cette classe, c'est qu'on n'a plus de problèmes de vie scolaire, quasiment avec eux. Parce qu'au fur et à mesure, en fait, ils apprennent à gérer leurs problèmes, et notamment en mettant par écrit les problèmes qu'ils peuvent avoir dans la quinzaine. Au bout de 15 jours, quand on le dit à l'oral, ils se rendent compte que finalement, en fait, c'était peut-être pas grand-chose et qu'il y a peut-être des choses plus importantes. Et donc, ils priorisent, on va dire, un peu les choses autrement.
Ils sont combien d'élèves dans cette classe coopérative ?
Alors, en 6e, cette année, ils sont 25. En 5e, ils sont 23. Ils sont à peu près dans le même nombre que les autres classes, en fait. Il n'y a pas de différence réelle sur ça. Mais on a l'avantage, effectivement, d'avoir des infirmiers, d'avoir une assistante sociale, d'avoir des personnes qui peuvent aider directement les élèves. L'assistante sociale travaille aussi avec les classes coopératives, par exemple, puisqu'elle assiste au conseil coopératif également. Donc ça permet vraiment de banaliser, on va dire, un peu cette aide extérieure qui devient très commune pour eux et normale. Parce qu'aussi, il y a des parents qui, parfois, sont un peu perdus dans les démarches. Donc il y a aussi beaucoup d'aide d'accompagnement des parents, des familles, des responsables légaux. Et je pense qu'effectivement, dans ce type d'établissement, c'est primordial d'avoir ces aides-là et... Il faut continuer, voire peut-être même intensifier. En fait.
Les classes sont aussi plus petites dans les collèges REP, 3 élèves de moins selon le syndicat enseignant SNES-FSU, mais cela reste une moyenne, tout dépend du nombre d'enseignants et de l'évolution démographique autour des collèges.
Donc je suis Chloé Pille, je suis professeure de français et j'enseigne depuis 5 ans ici. Ouais, c'était pas 5e entrée là.
C'est votre premier établissement ?
Oui, c'est mon premier établissement. Avant, j'étais un an stagiaire, donc c'est mon premier poste fixe. Quand on a 25 petits sixièmes qui ne sont pas très autonomes et qui nous sollicitent tout le temps, c'est très compliqué de gérer les difficultés de chacun, d'accompagner vraiment chaque élève pour qu'il puisse réussir, quoi. Alors que les troisièmes, finalement, sont plus autonomes, mais ils sont moins, mais en même temps, du coup, voilà, on arrive à faire plus de choses quand même avec eux.
Pendant votre année de stage, vous étiez déjà dans un établissement classé en éducation prioritaire ?
Du tout. J'étais dans un très bon collège de Villeneuve-d'Ascq, donc c'est pas très loin. Donc non, on n'avait pas du tout les mêmes problématiques, quoi. Bon, j'avais plus d'élèves quand j'étais stagiaire, j'avais une trentaine d'élèves, mais c'était des élèves qui savaient pourquoi ils étaient à l'école, qui travaillaient, qui faisaient leurs devoirs, qui n'étaient pas forcément contre les professeurs, leur scolarité, etc. Donc c'était vraiment différent par rapport à ici. Quand ils rentrent en sixième, on voit notamment beaucoup en lecture, ils déchiffrent à peine parfois ce qu'ils lisent. Au niveau de l'orthographe, ils écrivent comme ils parlent en fait, donc ils écrivent phonétiquement. Donc l'orthographe, voilà, ça va pas. La lecture, ils ont du mal, mais ce sont des élèves qui ne lisent pas chez eux. Donc forcément, un livre pour eux, c'est un objet un peu magique. Après, on n'a pas trop de difficultés à l'oral ni en compréhension quand on lit. En classe, ils comprennent bien, mais voilà, c'est plus au niveau de l'écriture et la lecture personnelle, quoi.
Ce sont les premières années qui sont très difficiles, je trouve, dans l'enseignement prioritaire.
Laurence Cox, professeure d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique depuis 20 ans à Marie Curie.
Parce qu'il faut s'habituer à un public qui est très jeune, très dynamique et qui a aussi parfois des travers que l'on ne trouve pas dans d'autres établissements. Une fois qu'on a passé le cap des premières années, on a une espèce de... une relation de confiance qui s'installe auprès des élèves.
Vous pouvez mener des projets pédagogiques, culturels, particuliers, grâce au fait d'être en REP avec eux ?
À l'initiative de Najat Vallaud-Belkacem, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, sont nés ce qu'on appelle les parcours d'excellence, qui étaient spécifiquement dédiés aux établissements de réseau d'éducation prioritaire. Donc ce sont des projets qui avaient pour but de mener les élèves vers des projets d'études qu'ils n'ont peut-être pas forcément envisagé parce que le contexte familial et socioculturel chez eux fait qu'ils ne connaissent pas l'existence de telle ou telle école. Et donc en clair, ce sont des partenariats avec des grandes écoles. Donc nous avions pu faire notamment un partenariat avec l'ESJ, l'école supérieure de journalisme de Lille, hein, une des écoles les plus réputées. Hein. Nous avons également un partenariat avec une grande école d'art qui est le Frénois, donc à Tourcoing. Nous avons également un projet avec l'INSPE, l'école supérieure du professorat. Ce qui est sûr, c'est que ça leur ouvre des possibilités. Et une de nos plus grandes réussites, bonjour, c'est qu'en fait, certains élèves continuent les partenariats ensuite au niveau lycée. L'année dernière, j'avais aussi l'anecdote d'un élève qui a gardé en contact un des étudiants qui s'est proposé pour devenir un peu comme son tuteur, hein, entre guillemets, pour l'aider dans ses études futures. Donc ce sont des petites victoires, c'est bien.
Nous nous rendons à côté de Valenciennes, à Bruay-sur-l'Escaut, une petite ville de 12 000 habitants, très touchée par le chômage. 27% des actifs étaient sans activité en 2017, un taux de pauvreté qui frôle les 30%. Toutes les écoles de la ville sont classées en REP et nous allons précisément voir Joël Yannicelli qui enseigne à l'école primaire Georges Brassens. Bonjour.
Entrez.
Merci beaucoup.
Je me masque aussi.
Alors, je m'appelle Joël Yannicelli, j'ai 42 ans. Je suis professeure des écoles depuis mes 22 ans, donc ça fait 20 ans. J'ai une classe de CP dédoublée puisque je suis en REP et j'avais 13 élèves à la rentrée et je n'en ai plus que 11 car j'en ai deux qui ont changé de département en cours de route. Voilà. Alors, avant la mise en place du dédoublement, je n'avais pas de CP en cours unique, j'avais des cours doubles. Et je suis montée jusqu'à 27 élèves. Et ce qui change, c'est l'attention qu'on peut porter aux enfants, forcément, leur temps de parole. C'est le niveau sonore de la classe qui change aussi. Quand on a 11 ou 13 élèves, on est moins dispersé que quand on en a 25 ou 26. L'enfant est forcément plus proche de nous et a plus de place pour s'exprimer. Et nous, on a aussi plus de temps pour l'observer et donc être au plus près de ses difficultés s'il en a.
Vous constatez une amélioration du niveau global de vos élèves quand même depuis le dédoublement des classes ?
Je ne sais pas si je peux dire ça en fait. On trouve qu'ils entrent plus rapidement dans le décodage, en tout cas en lecture. par rapport à d'autres années. Est-ce que ça fera d'eux des meilleurs lecteurs arrivant en CM2? Ça, je ne peux pas vous le dire actuellement. On peut nous donner tous les moyens du monde et dans un sens pour ces enfants. Heureusement que les classes sont dédoublées en CP et en CE1. C'est un peu un apaisement pour eux. Mais l'éducation nationale, elle ne réglera pas les problèmes du quartier. C'est un ancien coron, donc c'est la cité qui a inspiré Émile Zola pour Germinal. C'est un alignement de petites maisons en briques qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, étaient beaucoup insalubres. Beaucoup de familles monoparentales, il y a parfois de la violence, il y a parfois de la négligence éducative, mais pas forcément voulue. Parfois des parents qui ne savent pas comment faire, et puis parfois des familles tellement empêtrées dans des difficultés que nous on n'imagine même pas, qui n'y arrivent pas. Parfois des familles avec ne serait-ce que plus de 2 enfants, ça va être compliqué, c'est des petites maisons où il y a 2 chambres. Donc dès qu'il y a 3-4 enfants, les enfants n'ont pas un espace pour travailler. Ils vont travailler dans la cuisine avec tous les frères et sœurs, avec la télé allumée. C'est forcément un petit peu compliqué. Il nous est arrivé d'aller témoigner en brigade des mineurs, de devoir faire des signalements, de faire des choses comme ça.
Est-ce que depuis ces 2 ans, vous avez quelque part retrouvé... Je sais pas, une forme de dynamisme dans votre métier, de vous dire là ça y est, j'ai peut-être de meilleures conditions, je suis parti pour enseigner pendant encore 20-30 ans, etc. Ou vous vous posez des questions sur votre métier?
Si d'extérieur, j'imagine tous les collègues enseignants qui ont 30 élèves dans leur classe doivent se dire mais quelle belle vie, c'est... On a une pression quand même très très forte et une pression aux résultats. Malgré tout, les résultats ne peuvent pas s'embellir d'un coup avec tout le contexte dont je vous ai parlé avant. Enfin, moi j'ai 42 ans et je suis la personne la plus âgée de l'école. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, personne ne finit sa carrière dans un établissement comme le nôtre. Alors qu'il y a 12 classes, ce n'est pas non plus une école énorme, on est dans une belle école. Les collègues qui arrivent sont jeunes, dynamiques et motivés, mais au bout de 20 ans, il n'y a que moi qui suis encore là. On peut se demander pourquoi, et c'est bien parce que le public est moins facile, c'est bien parce qu'il y a des raisons, sinon les gens resteraient.
Bonjour.
Bonjour.
Après Joël Yaniceli, la deuxième institutrice la plus expérimentée de l'école, c'est Faustine Autin, depuis 14 ans dans l'éducation nationale, et depuis 3 ans, elle dirige l'école primaire Georges Brassens. Elle est aussi déléguée syndicale au SNUIPP-FSU.
On bénéficie, on va dire, de dispositifs qui n'existent pas dans le régime commun. Donc au sein de mon école, ça se traduit concrètement par l'appui d'une médiatrice contre l'absentéisme scolaire, qui peut aussi, en fait, être un point d'appui pour moi pour lutter contre l'absentéisme scolaire, parce qu'elle peut aller à domicile, discuter avec les gens. Et puis, on a aussi, là, par le biais de la politique de la ville, des projets qui sont financés. Par exemple, dans mon école, on a un partenariat avec une association qui s'appelle la Sauvegarde du Nord, qui a des éducateurs et qui a des missions de prévention. Et nous, on a tout un projet autour du harcèlement scolaire. Ensuite, le financement de ce projet, il n'est pas directement lié à la REP, puisque déjà, il est sur fonds propres. Hein, tout ce qu'on a fait de vente de petits pains et compagnie pour avoir diverses choses, ça en finance la moitié. Ensuite, j'ai fait une demande de subvention auprès du département. Alors le fait qu'on soit quartier prioritaire de la ville, qu'on soit une école classée REP, forcément je pense que ça joue dans notre faveur sur l'octroi d'une subvention. Mais là c'est vraiment, alors autant quand des fois on est en REP et en politique de la ville, il nous arrive par les politiques de la ville, etc., qu'on nous propose des résidences, qu'on nous propose des choses, autant là c'est vraiment l'école qui a tout fait. Ensuite, au niveau enseignant, l'avantage d'être en REP, c'est que c'est vrai qu'on touche une indemnité particulière qui s'appelle l'indemnité REP et qui s'élève à 140 euros par mois à peu près. Donc effectivement, ça dédommage du temps et de l'investissement et la difficulté inhérente à la REP.
Mais pour combien de temps encore va-t-elle bénéficier des moyens et des dispositifs réservés aux REP? La secrétaire d'État chargée de l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, porte un projet de réforme visant à supprimer les REP à la place des contrats de 3 ans signés entre les rectorats et des établissements. Chacun d'entre eux devra monter un projet pour obtenir des moyens. Objectif, donner plus aux écoles, collèges et lycées qui ne sont pas aujourd'hui dans des réseaux d'éducation prioritaire. Faustine Autin s'inquiète de ce projet.
Alors déjà, je pense que ce qui motive cette réforme, c'est de dire qu'il y a des gens qui sont exclus, quoi, on va dire comme nous pour passer en REP+, ou comme d'autres pour passer en REP, voilà. Et donc ça permettrait d'être plus souple, etc. Donc déjà, je pense qu'on pourrait doter davantage ces écoles-là sans toucher à la REP. Ensuite, qui dit moyens et contractualisation à l'école? Sur quels critères? Quels moyens? Quel type de projet? Est-ce qu'on aurait la liberté pédagogique, toujours, de mener des choses? Avant que ça soit quantifiable en termes d'évaluation scolaire, il faut quelques années. Voilà. Alors, quand on ne peut pas quantifier quelque chose, en quoi on évalue les progrès? Alors, c'est facile d'évaluer les progrès sur les évaluations nationales, mais qui ne montrent qu'une partie du travail et pas tout le reste.
On parle de contrat de 3 ans, donc ça veut dire donner de l'argent année 1 oui. Et évaluation à la fin de l'année plus 3.
Au bout de 3 ans. Alors, nos indicateurs, on les a choisis, certes, ils sont meilleurs. Donc, si on essaie meilleur, est-ce qu'on nous prolonge nos moyens? Ou alors on dit, maintenant vous êtes capable de vous débrouiller tout seul. Et s'ils sont moins bons, on va vous dire, voilà, vous donnez des moyens, ça sert à rien. Donc, on vous les retire, quoi. On ne sait pas tout ça. Ça, on est très interpellés. La chose qu'on sait, c'est que si on a moins de moyens pour faire ce même travail avec les difficultés qu'on a, je pense que ça nous usera.
L'Académie de Lille, où se trouve l'école Georges Brassens, fera l'objet d'une expérimentation de ce projet, tout comme celle d'Aix-Marseille et celle de Nantes, dès la rentrée prochaine, avant une généralisation possible en septembre 2022, si le ministère juge la réforme efficace.
Quand revient l'automne, ces souvenirs d'école immanquablement viennent me hanter. Odeur de coltan sur les épaules, chahut un quotidien désenchanté. Les premiers lundis de septembre existent-ils pour nous apprendre à nous cramponner, nous blinder quand le chagrin nous étrangle? Les premiers lundis de septembre, n'existe-t-il que pour nous rendre...
Les orphelins de l'éducation prioritaire, un reportage de Thomas Giraudot avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Pour commenter et compléter ce reportage, nous sommes avec Jean-Yves Rochex, professeur émérite au département des sciences de l'éducation à l'université Paris 8 Saint-Denis, spécialiste de l'éducation prioritaire. Alors la secrétaire d'État, Nathalie Elimas, met en évidence les écoles orphelines pour souligner la nécessité d'une réforme. Vous partagez bien son constat, Jean-Yves Rochex. Il y a effectivement des trous dans la raquette, des établissements qui mériteraient d'être soutenus et qui ne sont pourtant pas inclus dans les réseaux d'éducation prioritaire.
Sans doute, oui, et le reportage que vous venez de diffuser le montre. Néanmoins, on ne voit pas bien ce que la réforme annoncée va apporter de nouveau, parce que le cas des écoles orphelines, d'une part, la carte de l'éducation prioritaire, qui a été redéfinie en 2014, devait être réévaluée et éventuellement modifiée 5 ans après, en 2019. Or, le ministère n'a pas tenu cet engagement, et donc que cette carte soit réévaluée régulièrement pour tenir compte des évolutions, c'est évidemment tout à fait nécessaire. Et je note d'ailleurs dans votre reportage qu'il y a des évolutions positives, parce que ce qu'on nous dit, si j'ai bien compris, c'est que une école reste orpheline et n'est pas classée en éducation prioritaire parce que le collège dont elle dépend a vu sa situation et son recrutement s'améliorer et est sorti de l'éducation prioritaire. Donc il y a bien des évolutions positives. Rien n'interdit dès maintenant au recteur de tenir compte de cette situation pour doter les écoles orphelines de moyens supplémentaires.
Thomas Giraudot.
Ces écoles orphelines, notamment celle d'Anthony qu'on entend dans le reportage, elle est soutenue par le rectorat, mais elle ne bénéficie pas du dédoublement en CP et CE1, par exemple, comme les autres écoles classées en REP et REP+. Donc ça, c'est vraiment un dispositif important dont elles ne peuvent pas bénéficier parce qu'elles ne sont pas dans ces réseaux.
Il n'est pas certain que les recteurs ne puissent pas faire que ces écoles en disposent, même sans être en éducation prioritaire au sens du réseau d'éducation prioritaire. Et par ailleurs, qu'on introduise des écoles orphelines dans l'éducation prioritaire, personne n'en disconvient. Le problème à annoncer, c'est pas qu'on introduise des écoles orphelines, ça, personne ne pose de difficulté à cela. C'est une redistribution des moyens de l'éducation prioritaire vers d'autres types de territoires qui ne relèvent pas des mêmes problématiques. Et par ailleurs, une dénationalisation de la politique d'éducation prioritaire, puisque les REP seraient confiés aux seules responsabilités des recteurs, et les REP+, restant seuls de la responsabilité d'une politique nationale. C'est ça qui pose problème. Mais on peut très bien généraliser le principe d'allocation différentielle progressive des moyens à l'ensemble des écoles et des établissements du territoire, en fonction des caractéristiques sociales, scolaires des élèves qu'ils accueillent, et conserver un principe de ciblage dichotomique sur des établissements qui est des quartiers qui relèvent d'un traitement, j'ai envie de dire presque d'un traitement de choc. Or, ce que, à mon sens, nous vend la réforme annoncée, c'est qu'on va jouer le principe d'allocation progressive de moyens contre le principe de ciblage. Alors que ces deux principes ne sont pas antagoniques. Or, c'est ça qui est en jeu, me semble-t-il, dans la réforme annoncée.
Alors, le rapport de la Cour des comptes de 2018, l'un des rapports sur lesquels s'appuie cette réforme, a évalué l'éducation prioritaire et conclu que 40 ans de discrimination positive dans l'allocation des ressources n'ont obtenu que peu de résultats. Les écarts ne se sont pas suffisamment réduits. Est-ce que vous partagez cette analyse et si oui, comment analysez-vous les causes, puisque manifestement, vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur le diagnostic fait par la ministre?
Non, mais si vous voulez, un constat est clair, c'est qu'effectivement, 40 ans d'éducation prioritaire n'ont pas suffi ou n'ont pas permis de réduire sensiblement les écarts entre les écoles et les établissements concernés et la moyenne des autres. Néanmoins, il faut ajouter à cela que si les écarts ne se sont pas réduits, ils n'ont pas ou peu augmenté. Alors même que la situation sociale, économique des quartiers, des établissements concernés, voire la situation scolaire des établissements concernés, elle s'est considérablement dégradée. Donc on peut penser que le fait qu'il y ait un dispositif d'éducation prioritaire a permis que la situation scolaire se dégrade moins que la situation sociale et urbaine des quartiers concernés. Première chose. Deuxième chose, si le bilan est sans doute pas à la hauteur des espoirs qu'on avait pu y mettre, quelle conclusion en tirer? Est-ce que ça signifie l'échec de l'éducation prioritaire, ou est-ce que ça signifie, et c'est plutôt ce vers quoi je pense, que on n'a pas mis suffisamment en œuvre ce principe qu'on appelle de discrimination positive, je n'aime pas beaucoup le terme, mais d'allocation différentielle de moyens, de suivi pédagogique, de cohérence d'une politique? On sait que d'autres rapports le montrent, qu'un élève d'éducation prioritaire continue à coûter moins cher à la nation qu'un élève scolarisé dans les établissements les plus huppés du centre de Paris, de Toulouse ou d'ailleurs. Voilà. Et donc, moi je pense que si le bilan est décevant, insatisfaisant, c'est parce que la politique d'éducation prioritaire a souffert de discontinuité de soutien politique, d'incohérence dans ses orientations, dans sa mise en œuvre, à tel point qu'il a fallu une relance, deux relances, trois relances, une refondation. On voit bien que à chaque fois, il faut insister sur le caractère prioritaire de cette politique, et a souffert d'une insuffisance de moyens. Donc pour moi, c'est parce qu'il y a une insuffisance d'éducation prioritaire que le bilan est décevant, bien plus que parce que cette politique aurait échoué en tant que telle.
Alors, il y a quand même des choses dont on est sûr que ça a marché, comme par exemple le dédoublement des classes de CP et de CE1. Là, il y a vraiment des résultats concrets.
Il y a quelques résultats qui sont... d'abord, c'est une expérience récente, donc on n'a pas beaucoup de recul. Les résultats sont pas... Il n'y a pas de quoi sauter au plafond, j'ai envie de dire. On a deux types de résultats dans les enquêtes d'évaluation qui ont été menées. On a des résultats qui relèvent de l'appréciation des enseignants concernés. et on en avait des exemples dans le reportage, et qui tous, et c'est bien évident que quand on a affaire à 12 ou 13 élèves plutôt que 23, 24 ou 27, on a plus de temps à leur consacrer, on a plus de possibilités d'observer ce qu'ils font quand ils travaillent sur des tâches particulières en français, en mathématiques ou autres. Voilà. Donc bien sûr, de ce point de vue-là, il y a un sentiment de meilleure satisfaction professionnelle des enseignants, pas simplement de meilleur confort. Satisfaction, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir mieux faire leur métier. Voilà. Mmh. En revanche, au regard des résultats, il y a quelques résultats que le ministère met en avant, mais qui ne sont pas extrêmement probants. Si on regarde l'évaluation qui avait été publiée au regard de la première année de mise en œuvre, après une enquête du service statistique du ministère, quoi. Grosso modo, on nous dit qu'il y a une baisse, je cite, hein, de la proportion d'élèves en très grande difficulté, d'à peu près 8% pour le français, de 12% en mathématiques. C'est certes pas négligeable. Ça fait à peu près, sur les 24 000 élèves en très grande difficulté, 2 000 élèves de moins en très grande difficulté en français, 3 000 élèves de moins en mathématiques. Mais vous voyez quand même que c'est de l'ordre de 10 à 12%. C'est pas mirobolant. Et sans doute, parce que, et on avait des expériences préalables, hein, de dédoublement de classes de CP sous le ministère Bayrou, qui avait été évalué et qui avait montré des effets également décevants, parce qu'on peut penser que l'accompagnement pédagogique de cette mesure de dédoublement n'est pas optimum, et que par ailleurs, ce dédoublement s'est opéré au détriment d'autres dispositifs tels que le dispositif qui s'appelait plus de maîtres que de classes, qui permettait d'avoir des enseignants en surnombre pouvant intervenir dans les classes, aider les enseignants responsables de classe à observer le travail de leurs élèves, et qui n'a pas été évalué par le ministère, mais qui a été quasiment supprimé parce que les moyens ont été redéployés pour les dédoublements. Donc on a des difficultés à mesurer des effets très probants des différentes mesures que l'on a prises, et en particulier des doublements, même si il faut entendre les collègues et prendre au sérieux leurs paroles, leurs propos, selon lesquels leurs conditions d'activité professionnelle s'en trouvent notamment améliorées.
Alors,
pour ce qui est des résultats des élèves, il faut attendre un peu, quoi.
Vous parlez des enseignants, le manque d'attractivité semble perdurer dans ces réseaux d'éducation prioritaire?
Alors ça, c'est une question extrêmement importante, hein, que je crois dans les reportages que vous avez enregistrés, l'une de vos interlocutrices dit que l'ensemble de l'équipe de professeurs de français et de professeurs d'histoire géo du collège a été entièrement renouvelée. Donc on a des problèmes de cet ordre-là notables.
Et il y a cette professeure qui a 42 ans, elle dit c'est moi la plus vieille dans tout l'établissement.
Oui. Absolument. Et ce qui montre d'ailleurs que si on s'intéresse à ce que coûte un élève d'éducation prioritaire, comme les enseignants les moins expérimentés ou ayant le moins d'ancienneté sont moins payés que les enseignants les plus expérimentés qui sont dans les quartiers et les établissements les plus privilégiés, eh bien, ça fait partie du différentiel de dotation qui est peu visible, mais qui existe en défaveur de l'éducation prioritaire. Donc, les établissements, souffrent de, on va dire, d'évitement, de la part de certaines familles, de la part d'enseignants, qui ont le souci de travailler dans des conditions de travail les meilleures qui soient, comme n'importe quel salarié. Et sans doute, en revanche, ce qu'on peut noter quand même, c'est que, par exemple, dans l'enquête qu'a menée récemment l'Observatoire des zones prioritaires, on voit bien que, par exemple, la concertation et les heures de concertation sur temps de travail dégagées, en particulier dans les REP+, ont permis notablement d'améliorer la satisfaction professionnelle. Et peut-être, il faut être prudent parce que les chiffres sont à regarder avec plus de détails, pourrait diminuer le turnover, parce qu'évidemment, plus on est satisfait professionnellement de ce qu'on fait, même dans des contextes difficiles, et moins on est tenté de partir ailleurs pour retrouver des contextes plus faciles. Donc je pense qu'une des pistes nécessaires, c'est effectivement de renforcer l'éducation prioritaire pour que les enseignants aient un meilleur sentiment d'efficacité professionnelle et donc de satisfaction professionnelle.
Une dernière
question.
On
a aussi donné des primes et des indemnités qui sont certes intéressantes et qui d'une certaine manière reconnaissent la difficulté, le surcroît de travail des enseignants. Malheureusement, ça n'a pas l'air de diminuer le turnover des enseignants.
Thomas Giraudot.
Oui, la réforme a pour but de donner davantage de moyens aux établissements situés en zone rurale qui ne sont pas assez considérés dans les REP actuels.
ces territoires et ces catégories d'élèves relèvent de problématiques très différentes. Que les écoles rurales aient besoin de moyens supplémentaires, je n'en disconviens pas, mais elles sont pas victimes d'inégalités de ségrégation comme les écoles de l'éducation prioritaire aujourd'hui. Les spécialistes de l'école rurale disent que les résultats des élèves de l'école rurale ne sont pas inférieurs à ceux de l'école urbaine. Donc, on mélange tout. Ça, c'est la première chose. Après, sur comment seront évalués, alors, moi, ce que je crains, c'est que cette mesure de contrats locaux d'accompagnement ciblée sur des établissements soit, en quelque sorte, une sorte de cheval de Troie pour avoir une politique de pilotage des établissements par les résultats, comme on connaît dans un certain nombre de pays, en particulier anglo-saxons, qui risque d'accroître la concurrence entre établissements et de reporter, je veux dire, la responsabilité des difficultés, des mauvais résultats possibles sur les équipes enseignantes plutôt que sur les réformes de structure ou sur l'accompagnement national d'une politique.
Merci Jean-Yves Rochex. Les orphelins de l'éducation prioritaire, le grand reportage de cette semaine était signé Thomas Giraudot, réalisation Annie Bro avec Élise Leu à la technique. Merci à l'équipe de la documentation de Radio France. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr avec également des informations complémentaires.